France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une entreprise censée traiter les déchets qui s'en débarrasse dans la nature en toute illégalité. Entreprise du département de la Manche soupçonnée, ses deux propriétaires mis en examen. De nombreux sites dans tout l'ouest de la France ont été pollués. Le détail dans un instant. À suivre encore le vote du volet recettes du budget de la sécurité sociale pour l'an prochain. Nos finances publiques et la prise en charge de notre santé jouent en partie leur avenir. Ça se passe dans les prochaines minutes. Le vote est imminent à l'Assemblée. Nous y serons. Des dealers qui pénètrent dans une cour d'école et en viennent aux mains devant les enfants. Ça se passe à Nanterre, nous serons sur place. Des drones repérés près de l'avion du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Irlande. Lundi soir, explication, hier c'est la base de l'île Longue près de Brest qui a été survolée sans autorisation. Et puis la COP 20, la COP sur les espèces menacées. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Elle vient de s'achever, les requins seront mieux protégés.
Oui, le but est de limiter les trafics. Il y a de bonnes nouvelles en effet pour les requins. C'est moins bon pour les anguilles. Et une décision a été prise sur le Pernambouc, ce bois tropical des archers de violon. Je vous dis tout à l'heure.
Voilà, si important pour les musiciens, vous allez nous expliquer. Nous serons aussi aux États-Unis à quelques heures du tirage au sort de la Coupe du Monde de football. Deux pays bannis par les Américains vont y participer, Haïti et l'Iran. On va vous expliquer. À partir de 13h30, comment la Formule 1 a réussi à renouveler son public ? Plus jeune, plus féminin, tout cela alors que le championnat du monde se termine dimanche et que le suspense est total. 01 45 24 7000 pour vos témoignages, si vous êtes devenu accro ou si vous ne l'êtes toujours pas. 13h50, c'est la France et une passion que partagent beaucoup de Français. Photographier la mer, ce sera avec Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le comédien Pierre Guillois.
C'est une chanson qui est faite pour rendre joyeux, pour emballer, pour nous titiller quelque chose là dans le ventre, dans le cœur. Tout l'aspect choral, l'arrangement, quand même assez extraordinaire de ce point de vue-là.
Happy Together des Turtles, c'est un bon résumé d'ailleurs de ce 13-14. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ils sont soupçonnés d'avoir déversé près de 20 000 tonnes de déchets dans la nature pendant 9 ans, tout cela dans plusieurs départements de l'ouest de la France. Ça se passait des Deux-Sèvres à la Normandie. Un chef d'entreprise et sa fille, copropriétaire d'un groupe de traitement de déchets, ont été mis en examen hier. Le préjudice est estimé à ce stade à 4 millions d'euros. Eux auraient fait 1,5 million d'euros d'économie. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Ce qui frappe, c'est l'ampleur des pollutions. Et en fait, c'est la pollution de plusieurs lagunes près de Laval en 2019 qui a marqué le début de cette longue enquête.
Oui, mi-avril 2019, le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne est alerté par des administrés. Il voit un liquide suspect dans plusieurs lagunes d'assainissement de la commune. Alors, ce sont des étendues d'eau qui servent à dépolluer naturellement les eaux usées, mais pas n'importe comment. Ce liquide noir n'a rien à y faire. Des riverains évoquent un camion aperçu dans le secteur. Les gendarmes se penchent sur cette pollution. La suite est expliquée par le procureur d'Angers, Éric Bouillard, puisque l'affaire est ensuite remontée jusqu'au pôle régional spécialisé dans les atteintes à l'environnement.
Pour schématiser les choses, on va s'apercevoir d'abord qu'elle a plutôt un caractère volontaire, puis ensuite on va vérifier s'il s'agit d'un manquement par un salarié ou d'une politique d'entreprise. On va plutôt aboutir au fait que c'est une politique d'entreprise destinée à traiter illégalement des déchets tout en percevant les taxes demandées aux clients, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de personnes privées.
Des clients confiants puisque le groupe de société avait une existence tout à fait légale.
Alors au départ c'est près de Laval, mais en fait ce groupe est soupçonné d'avoir déversé des déchets un peu partout.
Oui, dans des étendues d'eau, des fossés, des champs d'une grande partie de l'ouest de la France qui permettaient d'économiser le coût du traitement puisqu'il faut trier, confier ensuite à d'autres sociétés spécialisées et si vous sautez ces étapes, forcément ça coûte moins cher, ce qui permettait de proposer des prix inférieurs de 30% à ceux des concurrents. Les enquêteurs ont entre autres tâches retracé tous les trajets des chauffeurs, un travail de fourmi qui continue donc sous la direction d'un juge d'instruction. Il s'agit notamment de savoir si l'entreprise a pu bénéficier de complicité pour trouver des endroits ou cacher les déchets en question.
Merci Ariane Grissel pour ces explications. Cette enquête avait donc débuté après la pollution de lagunes sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne. Olivier Barret en était le maire à l'époque, il l'est toujours. Sa réaction ?
Je suis vraiment très très content, très satisfait. Le travail des gendarmes a payé, hein, donc évidemment, ils pouvaient pas communiquer sur l'affaire. Ils avaient transmis les dossiers au parquet, mais je sais qu'ils avaient fouillé, vraiment fait une enquête très très fouillée, et vraiment satisfait de voir que ce criminel, hein, parce qu'on va dire que c'est un criminel de la nature, va être enfin arrêté et que ses activités vont être stoppées. Moi, je suis satisfait que suite à cette mise en examen, il y aura sans doute un procès et qu'en fait, ils ne puissent plus agir de la sorte, quoi, et que ça soit terminé pour eux.
Qu'est-ce que vous pourriez attendre de ce procès contre ces deux personnes ?
C'était la compétence, heureusement, je dirais, de Laval Agglomération. Il a pris en charge, je crois, plus de 160 000 euros de travaux pour curer les lagunes. C'est l'entreprise Séché Eco-Environnement qui est intervenue, qui a été obligée de refaire les deux bassins de lagunes, etc. Donc c'est plutôt vers eux que je dirais qu'il faudrait qu'un dédommagement arrive.
Le maire de Saint-Jean-sur-Mayenne, Olivier Barré, au micro d'ici Mayenne. Quand le trafic de drogue déborde dans la cour d'école, ça se passe donc à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où mardi une bagarre entre dealers a éclaté sous les yeux des élèves pendant la pause de la mi-journée. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour.
Erwan, vous êtes sur place, que s'est-il passé ?
Eh bien, selon un communiqué de la mairie, peu avant 14h, au moins 4 personnes donc sont entrées dans l'école au cours d'un probable règlement de compte avec un jeune homme réfugié dans l'établissement pour leur échapper. Le personnel, avec le concours de la police, a réussi à les mettre en fuite, mais le mal est fait pour Shirène, maman de deux enfants scolarisés ici.
Comme il y a une maman qui dit, en fait, la première chose qu'elle a pensé, c'était pas un règlement de compte, mais une fusillade, il y aurait pu avoir des armes, en fait, ça aurait pu être beaucoup plus grave qu'une simple bagarre. Et nos enfants, on a peur pour eux. On les met pour être protégés, sinon on les garde chez nous. Donc ça fait peur.
Elle n'a d'ailleurs pas remis ses enfants à l'école l'après-midi. Elle demande évidemment plus de sécurité. Le maire de Nanterre, Raphaël Adam, tente de rassurer.
On n'avait jamais connu, effectivement, c'était aujourd'hui un sanctuaire, l'école. La réaction, elle a été immédiate pour nous, c'est de mettre en place à la fois la présence de policiers municipaux le matin à l'entrée des classes, et puis l'après-midi, donc sur le temps de 13h30 et sur la sortie d'école à 16h30, d'avoir la présence de nos médiateurs.
Mais il appelle aussi l'État à l'aide pour faire face à la violence et au trafic de drogue. Après la rixe dans l'école, au moins 2 personnes ont été interpellées. Selon le parquet de Nanterre, le dossier est d'ailleurs jugé cet après-midi en comparution immédiate.
Erwan Chassin en direct de Nanterre avec les moyens techniques d'Éric Audra. Des contrôles dans toutes les prisons d'ici la fin de l'année. Voilà ce qu'a demandé le ministre de la Justice. Et 26 maisons d'arrêt ont donc déjà été inspectées depuis la semaine dernière, selon les chiffres de Gérald Darmanin. 400 téléphones et 600 objets interdits retrouvés. Alors il ne s'agit pas de fouiller intégralement ces établissements. Hier soir à la prison de la Santé à Paris par exemple, seuls 165 détenus ont été fouillés sur 1340. Cette mesure ne sera donc pas efficace, estime Flaviro, secrétaire général du syndicat national des directeurs pénitentiaires.
Nous craignons que ce type d'opération soit uniquement un coup d'épée dans l'eau. La raison qui nous fait dire cela, c'est la surpopulation massive dans laquelle se trouvent aujourd'hui les établissements pénitentiaires, avec en parallèle des carences RH extrêmement importantes. Et aujourd'hui, ce type d'opération qu'on a déjà mené très largement par le passé et qu'on avait arrêté de mener dans ses proportions, en tout cas depuis quelques années, ne nous semble plus efficace. Concrètement, d'ici quelques jours, l'ensemble des objets qui ont été saisis seront à nouveau dans les cellules parce que d'autres seront entrés. Et il nous semble qu'il faut lutter de plusieurs façons, à la source déjà, avec des moyens technologiques différents. Je ne dis pas plus importants, je dis différents parce que ceux dont on dispose aujourd'hui ne sont pas suffisamment efficaces. Il faut travailler dessus. Et puis ce que nous disons surtout, c'est que le rétablissement de l'ordre que veut notre ministre, c'est avant tout la lutte contre la surpopulation et les carences RH.
Flaviro, au téléphone de nos confrères de France Info. Un bloc de béton jeté d'un pont sur des voitures, un automobiliste tué. C'était en octobre 2024 en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, commune de Quévert. Depuis, les gendarmes menaient l'enquête. Hier, ils ont placé 2 adolescents en détention provisoire. Leur ADN a été retrouvé sur des objets laissés sur place à l'époque, dont des balles de golf. Ces deux jeunes de 17 ans n'ont aucun antécédent judiciaire. Toujours en Bretagne, cette fois dans le Finistère, plusieurs drones ont survolé hier soir la base sous-marine de l'île Longue, qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. Le bataillon de fusiliers marins qui protège la base a décidé d'ouvrir le feu. Lundi soir, ce sont les autorités irlandaises qui ont eu un coup de chaud au moment de l'arrivée de l'avion de Volodymyr Zelensky après sa journée passée à Paris. Et là encore, c'est à cause des drones. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
5 drones repérés dans le ciel irlandais. près du passage de l'appareil du président ukrainien.
Oui, mais les autorités estiment que le président ukrainien n'était pas en danger. Les drones n'étaient pas à proprement parler sur sa trajectoire et son avion, qui était un peu en avance, est passé avant l'apparition des appareils, d'après les sources du journal Irish Times. 5 drones ont été repérés par un navire de la marine irlandaise dans la baie de Dublin, à quelques kilomètres de la côte. Il pourrait s'agir de modèles sophistiqués, pilotés par des utilisateurs expérimentés. Ils avaient leur lumière allumée, toujours d'après l'Irish Times. Les autorités estiment donc qu'il pourrait s'agir d'une volonté de perturber le trafic aérien plutôt que d'une attaque délibérée. Au moment de l'incident, 3 navires qui pourraient appartenir à la flotte fantôme russe étaient en train de naviguer dans la zone maritime économique exclusive irlandaise. Les vols avaient été suspendus dans toute la capitale. Les responsables du survol sont maintenant recherchés. Les Russes sont considérés comme les principaux suspects. Les drones ont sans doute été lancés depuis une position terrestre ou maritime rapprochée. Ce type de survol pirate se multiplie sur le continent européen depuis septembre dernier.
Détail signé Étienne Monin. Emmanuel Macron, qui poursuit en ce moment sa visite en Chine, s'est exprimé ce matin sur la guerre en Ukraine. Selon le chef de l'État, il faut maintenir l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine et accroître la pression sur l'économie russe. Fin de citation. Le président de la République, qui a aussi pris la parole pour la première fois sur la condamnation avant-hier du journaliste français Christophe Glaise à 7 ans de prison en Algérie.
Je veux ici dire la très grande préoccupation avec laquelle nous avons pris connaissance du jugement. Il est excessif et il est injuste. Je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce que nous disons aussi aujourd'hui de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. J'ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement pour lui, pour sa famille. Pour l'ensemble de la profession, et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé. Donc il faut absolument qu'on trouve une issue favorable. Nous devons continuer d'avancer, parce que moi ce qui m'importe c'est de trouver des solutions. C'est de trouver une solution pour votre confrère, M. Glaise. C'est de trouver une solution sur les grands sujets économiques, sécuritaires, migratoires, qui nous touchent de part et d'autre. Et donc moi je ne suis pas dans l'invective de presse. J'ai déjà dit, je pense que tous ceux qui veulent faire de la question française une question de politique intérieure en Algérie, ou la question algérienne une question de politique intérieure en France, tirent un but contre leur camp. Enfin peut-être c'est des gens qui veulent rien faire avancer. Mais moi ce qui m'importe c'est qu'on ait des résultats.
Emmanuel Macron en Chine au micro de Jérôme Val. En marge de ce voyage, on a appris l'envoi de 2 nouveaux pandas géants de la Chine vers la France d'ici 2027, direction le zoo de Beauval. La France aura-t-elle un budget de voter l'an prochain, budget de l'État et budget de la sécurité sociale? L'an dernier, dans une assemblée nationale sans majorité, Michel Barnier avait échoué. Sébastien Lecornu y parviendra-t-il? Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée pour Inter. Sonia, le volet recettes du budget 2026 de la sécurité sociale doit être mis au vote dans les prochaines minutes. Et c'est au moment où on se parle l'incertitude la plus totale.
Ah oui, je peux vous dire que le suspense est à son comble. Rebondissement, il y a une demi-heure, quand les écologistes ont annoncé que finalement, ils voteraient contre ce budget de la sécurité sociale, du moins la partie recette. Ils dénoncent un budget décliniste et pas assez ambitieux pour donner plus de moyens, notamment aux hôpitaux. Donc, Jérôme, je peux vous dire qu'assis à l'Assemblée, tout le monde a ressorti la calculatrice pour refaire les comptes. Pour que cette partie recette du budget de la sécurité sociale soit adoptée, il faut qu'une majorité de députés Les Républicains et Horizon votent pour, mais aussi le Parti Socialiste. Le PS le fera, c'est peu habituel pour un parti d'opposition, mais plusieurs députés expliquent vouloir conserver des victoires comme l'abandon de la hausse des franchises médicales ou la hausse de la CSG sur le patrimoine, même si la mesure a été amoindrie pour trouver un compromis avec la droite. Et surtout, si la partie recette du budget de la Sécu est rejetée, le texte partira au Sénat. Les députés ne pourront donc pas se prononcer sur les dépenses, celle qui comprend la suspension de la réforme des retraites.
Une certitude à ce stade, Sonia, ce budget sera l'an prochain une nouvelle fois en déficit. Est-ce qu'on sait pour l'instant de combien ?
Oui, à environ 20 milliards d'euros en 2026 au dernier pointage, en prenant en compte l'ensemble des articles adoptés par l'Assemblée. Amélie de Montchalin a fait un point tout à l'heure. La ministre des Comptes publics a presque félicité les députés parce que cette copie, encore provisoire, il faut le rappeler, permet de contenir et même de réduire le déficit de la sécurité sociale. Il va approcher les 23 milliards d'euros d'ici la fin de l'année, selon la Cour des comptes. Mais encore une fois, tout cela est au conditionnel. Tout dépendra de ce vote à haut risque. On devrait être fixé d'ici 14 heures. Si le Parlement ne parvient pas à voter un budget pour la sécurité sociale, ce budget, ce déficit va déraper pour atteindre les 30 milliards d'euros, a répété encore et encore dans l'hémicycle Sébastien Lecornu, un Premier ministre encore au banc aujourd'hui, alors que sa méthode du compromis est mise à rude épreuve.
Merci Sonia Gobry en direct de l'Assemblée nationale. On revient vers vous évidemment dès que ce vote a lieu et dès qu'on en connaît l'issue. Vous étiez en direct avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Alors comment ces débats sont-ils suivis par les partenaires sociaux? Il se trouve qu'ils sont réunis ensemble en ce moment pour une conférence sociale sur le travail et les retraites. Seul le MEDEF, qui représente les grandes entreprises, seul le MEDEF est absent. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les partenaires sociaux suivent ces débats de très près.
Oui, notamment la CFDT, sa secrétaire générale Marie-Lise Léon, qui a salué ce matin le geste, par exemple, du gouvernement, qui s'est finalement résolu à ne pas augmenter les franchises médicales. Ça, c'est bien. En revanche, la taxation des mutuelles reste un motif d'inquiétude très fort pour les syndicats ici, comme la CGT, sa patronne Sophie Binet, qui estime qu'à la fin des fins, c'est tout le monde, à commencer par les retraités les plus précaires, qui n'ont pas de prise en charge par l'employeur, qui paieront, sujet du projet de loi de finances de la Sécu, qui, vous l'aurez compris, donc aura pris en partie le pas sur cette conférence sociale ce matin.
Cette conférence sociale, justement, Maxime, à quoi sert-elle ?
Eh bien, à remettre un peu les choses à plat, à apaiser les tensions. Hein. 2 ans après la réforme des 64 ans, si on veut parler retraite, il faut passer par la case travail, a redit ce matin Jean-Pierre Farandou, le ministre en charge du dossier, parler de comment on fait pour arriver jusqu'à la retraite en bonne santé. Le ministre ouvert à la discussion, mais qui, encore une fois, s'est fait rattraper par le budget.
Je rappelle que s'il n'y a pas cette loi de financement de la protection sociale, il n'y a donc pas la suspension des retraites. C'est-à-dire que si aujourd'hui les Français qui attendent d'avoir un trimestre de gagner l'an prochain, mais ils n'auront pas. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la réforme s'applique. Il faut une suspension pour qu'elle s'arrête. S'il n'y a pas de loi sur la sécurité sociale, comme la suspension est encapsulée dedans, il n'y aura pas d'arrêt, de décalage, de suspension de la réforme de 2023.
Et cela mettrait un sacré coup, on l'imagine bien, à cette conférence ouverte ce matin, baptisée TER, Travail, Emploi, Retraite, par le ministre, ancien patron de la SNCF et adepte de la bonne formule.
On a compris le jeu de mots. Merci Maxime Debs en direct de cette conférence sociale. Et puis j'ajoute que le Premier ministre a annoncé ce matin un soutien exceptionnel, environ 2,2 milliards d'euros sur 5 ans pour la Nouvelle-Calédonie. Tout cela après les violences du printemps 2024. De l'argent pour créer des zones franches, exonérer d'impôts certaines entreprises et lancer un programme de lutte contre le décrochage scolaire et professionnel. La musique et le foot, cela peut aussi être de la politique. On va parler dans un instant du football et du tirage au sort ce soir à Washington de la Coupe du Monde 2026. Avant cela, l'Eurovision, 166 millions de téléspectateurs. Il y a quelques mois pour l'édition 2025 de ce grand concours de la chanson, c'était une audience record depuis 2004 et aussi une grosse polémique avec la deuxième place du candidat ou de la candidate israélienne accusée par certains pays d'avoir utilisé le concours à des fins politiques. Et dans ces conditions, hier, l'UER qui organise ce concours a autorisé Israël à y participer à nouveau, ce qui a entraîné une décision de boycott de la part de plusieurs pays européens comme l'Irlande ou encore l'Espagne. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Satisfaction aujourd'hui en Israël, c'est très important pour le pays de continuer à participer.
Oui, unanimité à tous les niveaux. Le président Isaac Herzog a par exemple affirmé hier dans un communiqué qu'Israël méritait d'être représenté sur toutes les scènes internationales. L'année dernière, vous l'avez évoqué, c'est une survivante du massacre du Festival Nova le 7 octobre 2023, Yuval Raphaël, qui est arrivée deuxième du concours avec cette chanson et surtout grâce au vote du public. Une mobilisation populaire largement encouragée par le gouvernement. Benjamin Netanyahou et toute la nébuleuse de comptes sur les réseaux d'influence plus ou moins officiels liés au Premier ministre ont été accusés d'avoir utilisé leur pouvoir pour mobiliser la diaspora juive notamment. Rien de bien nouveau, vous me direz, pour un concours qui de toute façon a souvent plus à voir avec la politique qu'avec la musique. Cette année cependant les règles changent et le vote du public aura moins d'influence. Mais ce qui explique aussi aussi et surtout que l'Eurovision est ici un enjeu majeur, eh bien c'est tout simplement parce que la compétition est très populaire. La première des quatre victoires israéliennes remonte à 1978 avec cette chanson du groupe Alpha Beta aux influences brésiliennes.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem, Israël, donc satisfait de continuer à participer au concours de l'Eurovision. Vous nous avez parlé de Benjamin Netanyahou, autre leader qui ne va pas manquer de se mettre en scène ce soir devant les caméras du monde entier. C'est Donald Trump qui a obtenu que le tirage au sort de la Coupe du Monde de football ait lieu non pas à Las Vegas, comme le souhaitait la FIFA, mais à Washington. Il ne sera pas le seul ce soir présent. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le premier ministre canadien, Mark Carney, seront là également pour ce tirage au sort, puisque le Mexique, le Canada et les États-Unis vont organiser conjointement cette Coupe du Monde avec pour la première fois 48 pays qualifiés, 104 matchs, donc un format XXL et deux nouveaux pays, peut-être inattendus, qui vont y participer. Bonjour Nicolas Taillard.
Bonjour.
Et parmi ces pays qui vont y participer, des pays banni par les États-Unis, ça pose un petit problème. Deux pays sont concernés.
Oui, Haïti et l'Iran font partie des 19 pays ciblés par le travel ban de l'administration Trump et donc pas de visa pour leurs ressortissants. Et pas d'exception, Coupe du Monde, un billet n'est pas un visa, a d'ailleurs averti récemment la Maison-Blanche. Voilà pour l'atmosphère assez éloignée de la promesse faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui clamait encore récemment que tout le monde serait le bienvenu pour ce mondial. On n'est d'ailleurs pas passé loin d'un boycott de ce tirage au sort par l'Iran, faute de visa pour certains membres de sa délégation. Iranien, haïtien, dont seuls les joueurs, l'encadrement, la famille, devraient obtenir un sésame en cas de match sur le territoire américain.
Haïti, dont la qualification est totalement improbable.
Les Grenadiers, c'est le surnom de l'équipe, retrouvent une compétition qu'ils ont déjà disputée une fois, c'était en 1974, 51 ans plus tard. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde, livré à une guerre des gangs qui empêche la sélection de se rassembler, de s'entraîner, de jouer ses matchs au pays. L'entraîneur français de l'équipe, Sébastien Minier, n'a même pas pu poser un pied sur l'île depuis qu'il est à la tête de la sélection. Ça ne l'a pas empêché de puiser dans un réservoir dispersé c'est aux quatre coins du monde, mais talentueux, pour emmener Haïti au mondial. Participation d'autant plus symbolique que l'île vivait encore sous occupation américaine il y a tout juste un siècle.
Merci Nicolas Taillard. Alors cette Coupe du Monde sera la deuxième organisée sur le sol des États-Unis après 1994. On ne peut pas dire que le foot en avait profité pour se développer. 30 ans plus tard, il y a un début d'essor, surtout porté d'ailleurs par les Latinos. Reportage à Atlanta, l'une des villes qui accueillera les rencontres. Agathe Mahué.
Nous sommes sur un double terrain de foot à 5 au pied d'une station de métro aérien. Cynthia a 20 ans, tombé amoureux du foot, du soccer, tout récemment au lycée, dit-il.
Ici, tout le monde choisit soit le basket, soit le baseball, soit le football américain. Mais moi, j'aime bien me démarquer.
Le jeune homme né à Atlanta suit de près le club de Barcelone. Mais pour la Coupe du Monde, quelle équipe soutiendra-t-il ?
Mbappé, il joue pour quel pays déjà ?
France.
Alors je soutiendrai la France.
Un engouement encore un peu neuf donc, mais de plus en plus visible, comme le fait remarquer Marcel, l'organisateur de ce match amical.
Il a beau faire 0 degré dehors, ils sont quand même une trentaine à être venus.
Ryan est l'un des plus agiles sur le terrain. Il dit qu'il a pas mal de ses copains qui se mettent au foot en ce moment dans la perspective de 2026. La langue la plus parlée ce soir sur le terrain, c'est l'espagnol.
C'est ça le foot. C'est pas comme le football américain qui est juste pour les Américains. Le soccer, c'est le monde entier qui joue.
Marcel, lui, dit qu'Atlanta est très fier d'être l'une des 11 villes hôtes américaines. 8 matchs vont se tenir ici, dont une demi-finale dans le stade de 75 000 places, inauguré il y a moins de 10 ans.
Mbappé est-il français ? On voit que les Américains partent toujours de loin. Reportage Agathe Mahué. Les adversaires des Bleus seront donc connus ce soir. Tirage au sort à partir de 18h. C'est la COP dont on parle moins. Ça n'est pas la moins importante. La Convention internationale contre le trafic d'espèces sauvages. Cette COP met à jour la liste des espèces dont le commerce est interdit ou réglementé à travers le monde. Elle s'est achevée ce matin à Samarcande en Ouzbékistan. Célia Kiré, on vous retrouve. Il faut d'abord dire que cette COP établit une protection plus forte pour les requins.
Oui.
Là, il y a eu un accord.
Ouais, le commerce de 70 espèces de requins va être surveillé, et notamment le requin chagrin, très prisé pour l'huile de son foie utilisée pour les cosmétiques et les vaccins. Cécile Ernie est à Samarcande pour l'Union internationale de conservation de la nature.
C'est vraiment une avancée pour la protection de ces requins qui sont victimes de commerce illégal pour les ailerons, mais aussi pour l'utilisation de l'huile de leur foie, notamment en médecine traditionnelle, etc. Donc vraiment, ça va permettre une protection renforcée. Chaque partie doit mettre en œuvre les recommandations de la CITES. Oui.
Idem pour les grenouilles vertes. Les consommateurs pourront toujours en manger si elles viennent d'élevage. Les importations, elles, seront contrôlées.
En revanche, un échec pour mieux protéger les anguilles.
Oui, les anguilles n'ont pas obtenu de restrictions supplémentaires. La demande de l'Europe n'a pas abouti. C'est le Japon qui a bloqué, regrette Arnaud Aurelou. Il suit cette COP pour le Muséum National d'Histoire Naturelle.
C'est le Japon, visiblement aidé par la Corée du Sud et probablement d'une manière beaucoup plus silencieuse et invisible, la Chine. L'anguille est un mets inscrit dans leur tradition. Ils n'ont pas l'intention de lâcher leur culture et leur tradition. Même si c'est surexploité, très clairement, la réponse a été brutale et violente.
Et puis, il y avait un débat extrêmement vif. C'est lié autour du pernambouc, ce bois dont on fait les instruments de musique. Les musiciens vont pouvoir continuer à l'utiliser ?
Oui, ça a été le feuilleton de cette conférence sur les espèces protégées. Le Brésil voulait interdire complètement le commerce de ce bois tropical utilisé pour fabriquer les archets de violon. Mais devant le lobbying intense des musiciens et de l'Union européenne, un compromis a été trouvé. Il est désormais interdit d'abattre des arbres de pernambouc pour fabriquer ces archets, mais le commerce de pernambouc reste autorisé. Le but est de limiter le trafic illégal. Les musiciens peuvent être rassurés. Les instrumentiers ont du stock de bois pour leurs archets.
Merci Célia Kiré. De la musique au théâtre avec cette question qui va se poser avec force dans quelques semaines. Comment gérer un repas de famille qui se passe mal ? Le collectif bordelais Rivage en a fait à la fois une expo et une performance théâtrale qui circule en ce moment dans la région de Bordeaux. Son titre « L'art de l'enquête » et Julien Baldacchino. Tout commence donc par ces réunions de famille qui tournent vinaigre.
Ils sont comme moi, derrière un écran à des milliers de kilomètres.
Ce sont ces réunions de famille tendues qui ont poussé le comédien Loïc Chavrier à se demander si le fait de s'engueuler a quelque chose à voir avec le fait de ne pas consulter les mêmes médias.
C'est l'histoire d'une enquête que j'ai menée d'abord à partir des repas de famille où je sentais bien qu'on n'était pas tous d'accord autour de la table. Comment réussir à continuer à s'entendre ? Et ma première piste, ça a été de me dire peut-être que si on ne s'entend pas, c'est parce qu'on n'est pas expert de tous les sujets, mais qu'on est bien obligé de se nourrir de choses pour pouvoir en discuter malgré tout entre nous, et peut-être que ça vient beaucoup des médias.
La performance explore donc le paysage des médias et des réseaux sociaux, mais son véritable but, c'est de pousser chacun et chacune à s'interroger et à mener sa petite enquête sur les questions qui l'entourent. Maëlys Lebricon est la metteuse en scène de la performance.
L'enquête, elle est bien sûr évidente dans le travail des journalistes, dans le travail des anthropologues, mais il se trouve que les citoyens, citoyennes peuvent aussi se mettre en enquête. Le but n'est pas du tout d'imposer des réponses, ce serait vraiment un paradoxe. L'objectif, c'est vraiment de donner l'envie de réveiller cette pulsion vitale de s'intéresser au monde, s'adresser à des personnes à qui on n'oserait pas forcément parler.
Ce spectacle et l'expo qui l'accompagne sont désormais appelés à voyager, notamment dans des lieux scolaires et pédagogiques, pour donner envie de s'initier à l'art de l'enquête.
En reportage, Julien Baldacchino. Je reviens à l'actualité politique du jour. La mise au vote à l'Assemblée nationale de la partie recette du budget de la sécurité sociale pour l'an prochain. À l'instant, l'Assemblée a adopté la partie recette. Donc le Premier ministre Sébastien Lecornu réussit une première partie de son pari de faire adopter ce budget de la Sécu qui n'est pas totalement adopté. Est-ce qu'on a Sonia Gobry en direct de l'Assemblée ?
Oui.
Sonia, c'est
Bonjour.
Donc une adoption. Je n'ai pas le résultat du vote en termes de voix, peut-être l'avez-vous, mais en tout cas, c'est un satisfecit pour le gouvernement.
Oui, nous sommes justement à 100... Non, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais ça passe effectivement pour le gouvernement. 140 voix contre, effectivement. Ça passe de justesse à une poignée de voix grâce notamment à l'absence de députés RN et insoumis qui souhaitaient voter contre, qui est des voix qui allaient s'ajouter au vote contre des écologistes. Et c'est donc, oui, une victoire pour la méthode de Sébastien Lecornu qui est ici à l'Assemblée depuis hier pour tenter de trouver des compromis. Le Premier ministre n'a pas hésité à demander des suspensions de séance pour aller dialoguer, notamment avec les députés Horizon et LR qui ne cessaient de répéter que leur vote pour n'était pas acquis. Mmh. Et donc, Sébastien Lecornu aura donc réussi à trouver un compromis, du moins sur cette partie recette du budget de la sécurité sociale. Les députés maintenant vont s'attaquer à la partie dépenses, celle qui intègre notamment la suspension de la réforme des retraites.
L'Assemblée adopte la partie recette du budget de la sécurité sociale 2026. Merci Sonia Gobry, en direct de l'Assemblée nationale, 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Puis à 13h30, nous parlons de la Formule 1, ou plutôt de son public complètement renouvelé ces dernières années. Si vous faites partie des nouveaux fidèles, venez avec nous, 01 45 24 7000 pour vos témoignages. 13h45, notre feuilleton à la crèche. Et puis 13h50, c'est La France et c'est une chanson. Virginie Troussier, Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des photos de mer.
Il ne reste plus qu'une dizaine de jours pour participer au festival photo du Guilvinec. Avis aux photographes, venez poser votre regard sur l'océan et l'on verra ensemble pourquoi exposer la mer face à la mer peut élargir notre manière de voir.
Et avec vous Frédéric, un comédien.
Il est aussi auteur et metteur en scène, il s'agit de Pierre Guillois dont le spectacle Bigre se joue actuellement au Théâtre de l'Atelier à Paris, je ne sais pas pourquoi je tousse. Et avec lui, c'est un tube des années 60 que nous écouterons.
Que je le dise.
Happy Together, sans tout.
The Turtles, ouais. Allez, vous avez 20 minutes pour retrouver un peu de voix. À tout à l'heure.
Mon petit France Inter présente...
Savez-vous que Christophe Colomb n'est pas le premier Européen qui atteint l'Amérique ?
Les Odyssées.
Le podcast d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand Besançon.
Pour réchauffer nos cœurs cet hiver, la circassienne Rosa Boglione, Gustave Eiffel et sa fameuse tour, la grande chef Eugénie Brasier et la saga viking d'Éric le Bleu. Le vert ? Le rouge ? Youpi ! Ça va décoiffer !
Les Odyssées de France Inter.
5 nouveaux épisodes à retrouver sur Mon Petit France Inter et à télécharger sur l'appli Radio France.
Bonjour, je m'appelle Eya Belkirat. Je suis conseillère EDF pour les entreprises. Mes clients entrepreneurs veulent une gestion sans imprévu de leur budget électricité. Alors, je leur propose un contrat EDF adapté à leur activité, dont la part énergie est à prix fixe de 1 à 4 ans. Ils peuvent ainsi mieux maîtriser leur budget et être plus tranquilles. Appelez-nous au 3022.
EDF. Service gratuit, prix d'un appel local. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Contrat à prix fixe de l'énergie, hors répercussion des évolutions réglementaires prévues dans le contrat.
Je m'appelle Damien, j'ai 35 ans, et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former, et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin Ahuy.
Vous aussi, vous voulez aider les aveugles ? Inscrivez l'association Valentin Ahuy dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin Ahuy, 5 rue du Roc, Paris 7e.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour
une
à tous.
Une perturbation progresse lentement par l'ouest.
Oui, on a déjà quelques averses sur la Bretagne ou au pied des Pyrénées. Cette perturbation, elle va se décaler progressivement. On la retrouvera en milieu d'après-midi entre la Bretagne, le Cotentin, les Pays de la Loire avec des averses régulières et de bonnes rafales de vent. Et puis un peu plus tard dans la soirée, sur le centre du pays. Ailleurs, c'est un soleil voilé sur la partie ouest. C'est beaucoup plus couvert sur le nord-est et sur le sud-est. On a de larges éclaircies. Les températures sont en baisse, 5 à 9 degrés du nord au sud, 10 à 16 pour la partie sud. Elles remonteront à partir de ce week-end. On aura même un net redoux pour la semaine prochaine.
On a des départements en vigilance orange, vagues, submersion, il y en a 3.
La Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, Météo France nous prévient que demain, après le passage de la perturbation, un ciel de traîne très actif va se mettre en place. Et c'est là qu'on surveillera effectivement ces 3 départements au début de l'événement à partir de 3h du matin.
Merci Céline Dacosta.
France Inter. De 13-14, Jérôme Cadet.
3 hommes pour un titre, dimanche 14h à Abu Dhabi. 3 pilotes vont se disputer le titre de champion du monde de Formule 1. On n'avait plus vu un tel suspense depuis 2021. Mais au-delà de l'incertitude et des qualités des prétendants, Max Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ceux qui vont suivre cet événement. Le public que la F1 a réussi à renouveler ces dernières années et de manière assez surprenante. Fini l'image de sport polluants. Pour plus de 50 ans, la F1 est devenue un feuilleton à la mode qui s'écrit sur les réseaux sociaux pour des fans plus jeunes et plus féminins. 01 45 24 7000. Pour être avec nous et pour témoigner, vous pouvez aussi le faire via l'application Radio France par l'onglet Réagir. Je voudrais tout de suite qu'on accueille Margot Laffitte. Bonjour Margot.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes consultante pour Canal+, c'est votre papa Jacques, grand pilote français qui vous a donné le virus il y a quelques années. Vous êtes en direct du paddock du Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est ça Margot ?
C'est exactement ça, je suis présentement dans la voie des stands parce qu'on va prendre l'antenne dans quelques minutes.
Et comment est-ce que vous expliquez ce renouvellement que peut-être vous avez constaté dans les audiences mais aussi autour de vous, chez les gens que vous connaissez ?
C'est vrai qu'on quand même on découvre aussi non seulement un renouvellement, mais un rajeunissement aussi des fans qui regardent et qui observent la Formule 1 avec des intérêts divers. C'est vrai que maintenant, c'est pas uniquement le Grand Prix qui se déroule en piste le dimanche qui intéresse les gens, c'est toute la vie qu'il y a autour, toutes les histoires qu'il y a à raconter, les personnalités, des pilotes, et puis une féminisation aussi avec des catégories aujourd'hui qui sont créées pour donner envie aux femmes aussi d'accéder à ce sport mixte et au plus haut niveau.
Est-ce que la façon de filmer, de raconter, a changé également, vous qui êtes du côté du diffuseur ?
Oui, complètement, parce que finalement, un nouveau public, ça veut dire aussi les intéresser au patrimoine du sport, donc à l'histoire du sport, comprendre pourquoi le sport aujourd'hui en 2025 en est là, pourquoi justement il n'y a peut-être pas plus de femmes, sans mettre l'accent là-dessus, bien sûr, mais c'est un fait. Et aussi, voilà, expliquer, leur donner envie de l'appétence pour ce sport, ça passe à mon sens par l'histoire et par le patrimoine.
Un pronostic, je vous laisse, Margot Laffitte, parce que vous prenez l'antenne. Un pronostic pour dimanche ?
Oh, c'est tellement dur, là, avec ces trois prétendants. Alors, il y a quand même pas mal de points d'écart entre les trois premiers. Il y a 16 points du premier au troisième. C'est vrai que l'avantage, pour l'instant, c'est toujours au leader. Mais par le passé, on a vu un troisième à deux reprises remporter le championnat sur une dernière manche. Voilà, tout est possible. C'est ça qui est aussi génial et formidable à raconter pour nous.
Merci, Margot Laffitte, d'avoir pris quelques minutes pour nous en direct d'Abu Dhabi avant ce Grand Prix dimanche pour une Formule 1 qui petit à petit gagné des parts d'audience, renouvelé son image. Margot nous appelle de Quimper. Décidément, les Margot sont là aujourd'hui. Bonjour, Margot.
Bonjour.
Tu es en terminale, c'est ça ?
C'est ça.
Je crois que tu vas suivre le dernier Grand Prix de la saison dimanche. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport ?
Ce qui me plaît dans ce sport, c'est vraiment le fait qu'on a toujours ce suspense jusqu'à la fin. Là, comme on peut le voir avec les trois, Lando Norris, Oscar Piastri et Max Verstappen, qui jusqu'au bout, on ne sait pas qui va être champion du monde. Et dans les courses automobiles, c'est ça. C'est en fait, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on ne peut pas savoir qui va gagner. C'est un sport qui peut présenter des imprévus et tout ça. Donc, c'est ça qui nous tient en haleine à chaque fois jusqu'à la fin.
Est-ce que tu as beaucoup de copines comme toi qui suivent ce sport ?
Des copines, j'en ai quelques-unes quand même, et majoritairement quand même des garçons, mais ouais. Si, il y a de plus en plus de filles qui regardent la Formule 1.
Tu as des fans dans ta famille ? Qu'est-ce qui t'a donné le virus ?
Moi, c'est mon papa. Mon papa, il regarde les courses automobiles depuis assez jeune quand même, et c'est quelque chose de familial tous les dimanches. Voilà, c'est le Grand Prix avec le plateau télé, et on se retrouve tous en famille pour regarder la Formule 1, quoi.
Le fait que ce soit un sport mécanique, avec des grands prix partout dans le monde, avec des écuries qu'il faut déplacer, tout cela a évidemment un impact sur l'environnement. Cela ne te dissuade pas ? Est-ce que tu ne te poses pas des questions autour du bilan carbone, notamment de la Formule 1 ?
Si, forcément, c'est un sport qui pollue, mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la course en elle-même qui va polluer. C'est vrai, en fait, comme vous dites, les déplacements qu'il va y avoir d'un pays à l'autre, puisqu'il y a des grands prix qui se retrouvent à l'autre bout du monde à chaque fois. Mais par exemple, quand on pense à des événements comme la Coupe du Monde ou les JO, c'est des événements qui vont polluer tout autant, voire plus qu'une course de Formule 1. Donc, oui, ça dissuade, mais on pense pas forcément aux autres événements d'à côté, et les autres événements d'à côté, on les regarde aussi, quoi. Donc, voilà.
Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un effort de fait dans la place des femmes dans la Formule 1, qui ont longtemps servi aussi pour mettre en valeur uniquement les pilotes hommes ?
Et déjà, les femmes, il faut savoir que le sport mécanique, c'est le seul sport où elles sont au même égal que les hommes. Il n'y a pas d'autres catégories, elles courent avec des hommes. Mais c'est juste que, vu que c'est un sport très sélectif, c'est difficile d'y entrer. En fait, à la base, il n'y a pas beaucoup de femmes qui entrent dans les écoles, dans les kartings et tout ça. Donc forcément, c'est pour ça qu'au bout, par exemple, en Formule 1, il n'y a pas de femmes encore au volant de Formule 1.
Merci Margot de nous avoir appelé de Quimper. Il y aura peut-être des femmes encore au volant de Formule 1 dans les années qui viennent. On verra, peut-être les réformes seront faites. Ce sera peut-être vous, Lisa Billard. Bonjour. Merci d'être avec nous en ligne d'ici Normandie. 16 ans, vous participerez à la F1 Academy l'an prochain. Je salue également Paul Belmondo. Bonjour.
Bonjour.
Pilote professionnel pendant une vingtaine d'années, vous avez piloté quelques Grands Prix en Formule 1. Combien de Grands Prix, Paul Belmondo ?
Alors, j'ai couru en 92 et 94. Et à mon époque, il fallait se qualifier. Et j'ai fait 6 ou 7 Grands Prix, je crois.
Comment est-ce que vous regardez ce mouvement, Paul Belmondo, cette popularité plus grande auprès de publics qu'on n'attendait pas forcément ?
Oui, bah c'est très intéressant parce que justement, c'est surtout le rajeunissement du public. Ça, c'est vraiment une très bonne chose pour la Formule 1. Et puis aussi, les femmes qui sont très impliquées aujourd'hui, parce que vous parlez des pilotes. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont ingénieures, qui sont stratèges, qui sont mécaniciens. Elles sont à tous les niveaux du sport automobile et de la Formule 1, ce qui n'existait pas à mon époque. À mon époque, les femmes, elles étaient soit chronométreuses, soit elles faisaient les RP. Donc, c'est là où vous voyez qu'il y a une très grande évolution. Oui, les relations presse, oui.
Et comment est-ce qu'on explique cette évolution, Paul Belmondo ?
Bah justement, ça s'est ouvert où on a accepté, c'était un monde fermé, un monde d'hommes, et on a accepté qu'en fait, bah, que les femmes pouvaient être légales, voire meilleures que les hommes. Vous avez vu sur le podium du dernier Grand Prix, c'est une femme qui a fait la stratégie et qui a permis à Verstappen de gagner la course. Donc c'est la preuve, voilà, que les femmes sont aussi bonnes, peut-être voire meilleures dans certains domaines, et ça, le monde de la Formule 1 l'a compris.
Est-ce qu'on peut être fan de Formule 1 et être écolo, être préoccupé par l'avenir de la planète ?
Alors, c'est difficile, bien sûr, parce que ça reste un sport polluant, et je vais pas vous dire que c'est un sport vert, mais en tout cas, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts. L'année prochaine, par exemple, les moteurs vont être à 50% électriques et à 50% thermiques. Donc, il y a vraiment des gros efforts. Moi, à mon époque, quand je roulais, on embarquait, je sais plus combien, 150, 180 litres d'essence, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a vraiment des efforts qui sont faits avec maintenant des biocarburants et ainsi de suite. Donc, on essaye d'améliorer les choses. Mais vous pourrez pas faire une empreinte carbone à zéro avec la Formule 1. Sur les déplacements aussi, on est resté dans la même région entre deux Grands Prix. Je sais qu'ils essayent de faire un calendrier pour éviter, comme à une époque où vous étiez au Brésil et puis après vous alliez courir en Europe et après vous retourniez au Japon et ainsi de suite. On essaye de faire en sorte qu'on enchaîne l'Australie, le Japon, enfin des hémisphères qui sont proches.
Je vous livre la remarque de Michel des Hauts-de-Seine, Paul Belmondo. Vous avez déjà en partie répondu, mais tout de même, je considère, nous dit-elle, que la Formule 1 devrait être interdite. C'est indécent de continuer à gaspiller du carburant pour rien du tout. Ça pollue l'atmosphère et ça fait la promotion de la vitesse, nous dit-elle.
Alors bien sûr que ça c'est son opinion.
Il faut aller vite.
Mais c'est le but du sport. Mais dans ce cas-là, si vous commencez à regarder tous les sports et tout ce qu'on fait, on va tout interdire. Hein. Donc on reste chez soi, on fait plus rien. Et si vous commencez à regarder, ne serait-ce que de se servir de son téléphone et d'aller sur Instagram, par exemple, vous faites tourner des ordinateurs dans le monde entier, c'est une consommation énorme. On consomme, notre monde aujourd'hui consomme énormément et on pollue énormément. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de continuer à se faire plaisir, c'est continuer à vivre d'une manière agréable, et que ceux qui aiment la voiture font de la voiture, ceux qui aiment la voile font de la voile, et ainsi de suite. Mais par contre, il faut faire en sorte que ça pollue moins. Ça, oui, ça, c'est très important, et de justement de travailler sur ça. C'est ça. Si on faisait rien et qu'on était toujours au même niveau comme il y a 30 ans, oui, je serais tout à fait d'accord avec cette personne.
Merci, Paul Belmondo, d'avoir été avec nous dans ce 13-14 sur France Inter. Lisa Billard, vous êtes avec nous, 16 ans, vous rêvez de devenir pilote professionnel. Je vous livre le message de Serge, ma petite fille est passionnée de F1, elle s'engage pour être ingénieure en automobile, elle y connaît tout, les filles aussi peuvent être ingénieures et passionnées d'automobile. Vous, votre rêve, Lisa, il est d'être pilote, d'où est-ce qu'il vous vient ce rêve ?
Alors j'ai commencé le karting à l'âge de 7 ans, donc ça me vient de mon père qui a toujours été passionné de sport automobile et qui m'a un peu passé cet amour pour la vitesse, l'adrénaline et tout ce qui s'ensuit.
Il est garagiste, votre papa, je crois ?
Oui, c'est ça, exactement.
Et donc, c'est lui qui vous a amené vers les circuits ?
Alors, au début, en fait, il faut savoir que j'ai commencé à 7 ans et il n'y avait pas énormément de modèles de femmes dans le sport automobile. Donc, je pensais que c'était un sport réservé aux garçons. Et puis, finalement, j'ai pu rouler, faire mes premiers tours de roue à Anneville-en-Bourville, là où Esteban Ocon et Pierre Gasly ont commencé.
En Normandie ?
Et j'ai vu que... Oui, c'est ça, en Normandie. J'ai vu que je pouvais battre les garçons et c'est ce qui m'a donné envie de continuer pour me prouver à moi-même que c'était possible.
Donc là, vous êtes dans un lycée spécialisé ?
Oui, alors je suis au Mans, en sport-études, au Pôle Espoir, à la FFSA Academy. Donc on a le CNED pour pouvoir continuer notre scolarité en même temps que notre sport, parce que ça fait beaucoup de déplacements. Et puis on a tout ce qu'il y a, la partie physique, où on s'entraîne beaucoup. On fait 12 heures de sport par semaine avec de l'escalade pour un peu s'habituer à faire de tout, pour changer, enfin, pour sortir de notre zone de confort. On a tout ce qui est coordination, réflexe, donc tout est adapté là-bas. On a aussi le simulateur et c'est très pratique pour concilier les deux.
Ce qui se plaît aussi au jeune public, comme vous, alors vous faites beaucoup plus que suivre, vous pratiquez l'Isa Billard, mais c'est de consulter notamment les vidéos des influenceurs. Est-ce que c'est votre cas ?
De consulter les vidéos des influenceurs.
Il y a beaucoup d'influenceurs qui suivent la Formule 1 et qui font leurs commentaires et qui sont suivis par des milliers de gens qui suivent ce sport grâce à ça.
Bah, je trouve que c'est une bonne chose parce que...
Vous le faites,
c'est
vous ?
C'est ce qui fait que notre sport est connu. Après, c'est vrai que moi, c'est plus un autre registre. Je suis plus sur la partie pilotage, mais c'est ce qui fait que notre sport s'ouvre à toutes sortes de publics. Donc, c'est très bien qu'on puisse avoir de plus en plus de jeunes qui suivent et de plus en plus de filles aussi, surtout.
Vous nous dites que sur les circuits, vous battez des garçons. Lisa, est-ce que vous imaginez dans quelques années une Formule 1 avec des pilotes femmes et des pilotes hommes les uns contre les autres ?
Et bah, c'est le but. L'objectif, c'est qu'une ou plusieurs même. Le but, c'est qu'on arrive en Formule 1, qu'on montre au monde entier qu'on est capable de battre des hommes et qu'au final, un pilote, c'est un pilote. Et quand on aime ce qu'on fait, on a tous le même objectif et c'est de gagner.
Merci Lisa Billard d'avoir été avec nous. La F1 Academy, c'est ça l'an prochain ?
Oui, c'est ça.
En quoi ça consiste très rapidement ?
Alors, la F1 Academy, c'est un championnat pour amener les filles dans le sport auto au plus haut niveau. Donc, on sera 18 sélectionnés pour parcourir le monde. On aura 7 grands prix en même temps que la Formule 1. Et celle qui gagne obtiendra un baquet pour aller dans la catégorie du dessus.
On vous le souhaite. Merci Lisa Billard d'avoir été en direct avec nous. Je remercie également les collègues d'ICI Normandie à Rouen pour leur accueil. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Dernier jour pour notre feuilleton à la crèche. La micro-crèche du zoo de Beauval. Une dizaine d'enfants accueillis dont les parents travaillent dans le parc animalier. C'est donc une micro-crèche d'entreprise et c'est l'objet de ce quatrième épisode.
Bonjour. Bonjour madame, ça va ? Bonjour les enfants. Ah ben voilà, c'est toi la nouvelle que j'ai pas vue hier. Coucou.
Salut.
Comment ça va ma copine ?
Ouais,
t'as un peu le rhume, hein.
Ah bon ?
Salut, j'ai les mains fraîches. Hein. Bah ouais, j'ai les mains fraîches. Ah là là. Bonjour, je suis Marine Dezandre, la cofondatrice des Parents Zen. Et vous appelez
enchantée,
comment ?
Maëlle.
Maëlle, enchantée Maëlle. Ça va depuis hier ?
Ah bah oui.
Ouais, super. Pas de dodo ce matin ?
Non, pas pour l'instant.
Voilà, bah, il faut pas qu'il dorme pendant la balade, là. Hein. Eh bien, aujourd'hui, je suis venue rendre visite à la crèche du Zooparc de Beauval. Alors, c'est une crèche qu'on a ouverte en août 2020. Quand on a créé les Parents Zen, l'idée au début, c'était de démocratiser la crèche d'entreprise. Alors, du coup, on a 15 crèches, plus la crèche du Zooparc de Beauval. Et on a aussi une crèche dans le nord, à Feuquières, à côté d'Amiens, pour l'entreprise Saverglass.
Vous existez, les Parents Zen, ça existe depuis 15 ans. Est-ce que vous avez vu les entreprises évoluer sur la question de la parentalité ?
C'est vrai qu'avant, on pouvait avoir des DRH qui nous disaient, ou des patrons d'entreprise, je ne vais pas commencer à m'immiscer dans la vie privée de mes collaborateurs. Et puis, où est-ce que je commence ? Où est-ce que je m'arrête ? Non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, tout le monde a compris, tous les chefs d'entreprise et les DRH ont bien compris que la vie personnelle et la vie professionnelle sont vraiment intermêlées. Et que si on veut avoir un collaborateur qui est efficace, qui est engagé dans son travail, il faut aussi s'occuper du côté personnel.
Alors Beauval, c'est 700 salariés permanents et le double à partir du mois d'avril. Donc on arrive à 1500, pleine saison touristique. Sophie Delors, directrice du Zooparc de Beauval.
Alors expliquez-moi, comment ça vous est venu l'idée de créer une crèche pour vos salariés ?
Eh bien en fait, j'avais des demandes de salariés, de collaborateurs qui se rencontraient de grandes difficultés pour trouver un mode de garde pour leur enfant. Donc, les demandes étant plus nombreuses, je me suis dit moi-même, m'étant trouvée moi-même dans cette situation, parce que j'ai trois enfants, et que concilier effectivement le travail pour avoir un bon équilibre de vie, c'était compliqué. Donc, je me suis mise en recherche d'une solution.
Mais c'est un coût pour une entreprise ?
Absolument, c'est un coût. C'est un coût et pour tout vous dire, en fait, aujourd'hui, ça nous coûte... Alors, je réserve en fait 12 berceaux qui coûtent 200 000 euros chaque année avec, heureusement, un crédit d'impôt qui réduit de 50%. Mais c'est hyper important. Je suis très, très heureuse parce qu'en fait, ça soulage vraiment beaucoup les collaborateurs de Beauval. Aujourd'hui, si on ne l'avait pas, avec la difficulté qui se fait croissante sur les recrutements, peut-être... que ça aurait pu effectivement bloquer. En tous les cas, c'est un plus-plus et je suis très très contente que l'on continue. On a un contrat sur 10 ans. On renouvellera parce que c'est vraiment très 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 pratique pour les salariés.
Une semaine à la crèche, feuilleton signé Alice Cachaner, réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le vendredi 13h49, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Virginie, ces jours de coups de vent en Bretagne, ça attire toujours les photographes et justement la photo de mer. Le festival photo du Guilvinec attend les dernières candidatures pour participer à l'édition qui aura lieu l'été prochain.
Participer au festival photo du Guilvinec, c'est d'abord faire l'expérience d'un paradoxe. Regarder des images de mer alors que la mer est là, partout, avec son sel et son souffle. Pourquoi ajouter des images à ce qui s'offre déjà immensément, naturellement ? Le Guilvinec, grand port emblématique du pays bigoudin, a fait de cette question un geste. Pendant 4 mois, ses rues, ses façades deviennent une galerie à ciel ouvert. 300 photographies accrochées là où rentrent chaque jour les bateaux ventrus de poissons. Ici, pas de porte de musée. L'art circule avec l'air du large. On sort de la criée et l'on croise un visage marqué d'ombre, des cirés éclaboussés de lumière, des abysses mystérieuses, une houle graphique ou encore une immense tête de morue bleuie sous les embruns. Exposer la mer face à la mer, c'est reconnaître qu'elle ne se laisse jamais saisir tout entière. La mer bouge, vibre, embue les objectifs, déborde les cadres. La photographie nous montre dès lors pas seulement ce qui est, mais surtout ce qui excède.
La photo, c'est donc une autre façon de regarder la mer.
Oui Jérôme, car la photo révèle toujours une autre réalité que celle de la perception brute. Au Guilvinec, on peut dire que la photo agrandit le réel. La mer tangible et la mer photographiée se répondent, s'amplifient. L'une donne la mesure, l'autre nous surprend. C'est offrir un second seuil d'émotion, comme si une fenêtre venait s'ouvrir dans une autre fenêtre. On croit regarder, soudain on sent qu'on est regardé. Car toute grande image possède une forme de présence. Elle semble demander « qu'as-tu vraiment vu ? De quoi te souviendras-tu ? » Une image peut aussi vous capturer, un pouvoir qui permet de passer de la contemplation à l'action. Car véritablement au Guilvinec, les photos nous pousse à devenir plongeurs, matelots, scientifiques, surfeurs ou tout simplement à aller en mer.
Et on réalise aussi à travers les différentes œuvres qu'il y a plusieurs mers.
Il y a les mers qu'on observe, celles qu'on traverse, qu'on imagine, qu'on cadre. Le poète américain Walt Whitman écrivait « Pour moi, la mer est un perpétuel miracle. Les poissons qui nagent, les rochers, le mouvement des vagues, les navires avec les hommes qu'ils portent, y a-t-il plus étrange miracle ? La mer est un miracle, mais la photographie également. C'est une coïncidence du temps et du mouvement. Alors saisissons les miracles, car c'est une puissante occasion de regarder vraiment ce qui nous entoure, et c'est peut-être là que tout se joue.
Il y a quand même une condition, Virginie, il faut être curieux, il faut avoir envie d'ouvrir les yeux.
Et bien dans un monde où 60 000 photos se prennent toutes les secondes aux quatre coins du globe, une exposition devient une invitation à retrouver une attention précieuse. Photographier la mer, c'est apprendre, comme le disait Anita Conti, à oser voir. La célèbre océanographe prenait ses images comme elle écrivait des poèmes, pour voir hors de soi, mais aussi en soi. C'est peut-être cela l'enjeu du festival, rappeler que voir est un acte. Une photographie, c'est avant tout quelqu'un qui regarde, qui crée de la beauté. Alors aux artistes maintenant de répondre à l'appel de l'immensité océane et d'élargir encore ce qu'elle nous donne à penser et à sentir.
Et pour exposer au Guilvinec, vous avez jusqu'au 15 décembre pour envoyer vos candidatures. Merci Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est à la fois auteur, comédien, metteur en scène. C'est Pierre Guilloy.
Pierre Guilloy. Guiwa qui a reçu deux Molières, Molière du théâtre public pour Les Gros patinent bien, Molière du meilleur spectacle comique pour Bigre, une pièce qui se rejoue actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris. Et c'est une chanson des Turtles qu'il a souhaité que l'on écoute, Happy Together, un tube qui le ramène au début des années 2000.
Je pense que c'était il y a une vingtaine d'années et j'étais en train. Je prends beaucoup le train, évidemment, comme souvent les gens de théâtre. Et j'aime beaucoup le train, d'ailleurs. Et souvent, je fais des choses dans le train. Soit je travaille, soit je regarde un film. Enfin, voilà. Mais là, je sais pas, j'étais dans une humeur plus passive, comme ça. Et je vais au bar. Et là, il y a une fanfare de jeunes gens, 20-30 ans, quoi, qui jouent des morceaux. Et entre autres, ils jouent le Happy Together, une adaptation, évidemment, pour fanfare de Happy Together, mais qui rend ce morceau extraordinaire et qui donne une joie infinie à ce petit bar de TGV. Et je sais pas, ça m'avait réjoui et ça m'est resté.
Pendant ce voyage en train, vous disiez que vous étiez un petit peu inactif. Est-ce que vous étiez même un peu maussade avant d'écouter cette chanson ?
Oui, je pense que j'étais un peu maussade, peut-être un peu triste. Une humeur un peu en dessous, en tout cas. Et ces jeunes gens de la fanfare, ce morceau m'avait enflammé. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.
1967, Frédéric, pour la sortie de cette chanson des Turtles.
Une chanson qui provoque toujours le même effet sur Pierre Guiwa. Elle le met en joie.
C'est une chanson qui est faite pour rendre joyeux, pour emballer, pour nous titiller quelque chose là dans le ventre, dans le cœur. Tout l'aspect choral, l'arrangement est quand même assez extraordinaire de ce point de vue-là.
Cette chanson, elle dit le bonheur d'être ensemble, en l'occurrence d'être amoureux et de partager son quotidien. Vous, vous êtes capable d'être heureux tout seul ou vous avez besoin aussi d'être accompagné ?
J'aime bien être accompagné quand même, mais je peux être heureux tout seul. Je peux être heureux sur mon vélo, dans la nature, de façon très très claire. C'est-à-dire que ça me rend heureux.
Et est-ce que vous savez pour quelle raison vous êtes doté de ce naturel-là ?
Alors je pense qu'il y a toute une part chimique, hein, voilà, y a des gens qui vont mal juste, c'est chimique, hormonal, machin, des trucs qui se dérèglent. Et puis après c'est la chance aussi, la chance d'avoir été dans une famille aimante, d'avoir pu faire le métier que je voulais. Voilà, donc c'est quand même des accumulations de circonstances dans la vie qui vous permettent aussi d'être plus ou moins disponible au bonheur. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together.
Est-ce que vous avez souvenir d'une relation amoureuse qui était aussi pleine et heureuse que celle qui est décrite dans cette chanson-là ?
Oui, parce que dans les relations amoureuses, elles peuvent être passionnelles, tumultueuses et accompagnées de choses très sombres. Mais mon compagnon actuel, quand on s'est rencontrés, c'était quelque chose de très happy together, qui est toujours là, mais bon, voilà, ça fait longtemps.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
15 ans.
Et cette chanson-là, elle pourrait accompagner encore certains moments de votre quotidien avec lui ?
Ah oui, oui, parce qu'en plus, avec la vie que je mène, de tournée, etc., on se voit irrégulièrement. Donc, il y a des retrouvailles régulières et on est heureux de se retrouver. Happy together.
Happy Together de Turtles, c'était donc Frédéric, le choix de Pierre Guiwa.
Pierre Guiwa que vous pouvez retrouver jusqu'au 4 janvier au Théâtre de l'Atelier à Paris dans son spectacle Bigre.
Merci Frédéric et à lundi. Happy Together, c'est un bon résumé de cette semaine de 13-14 grâce à la rédaction en chef, à Cécilia Arbona, Flore Catala et Sébastien Sabiron, assistés de Sylvain Lesage, Nicolas Sabat, Rachid Zourdani et Stéphane Rousset. Grâce à la technique, à Mélissa Etroit, Paola Collin et Achille Aknin, notre attaché de production Camille Poux-Jalaguet, notre stagiaire Lise Dezury et évidemment nos standardistes.